Cet épisode est commandité par Loutech, les experts en location avec la plus grande flotte d'équipements d'élévation au Québec.
Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au balado Station Constructo. Cette série traite des grands défis rencontrés sur des chantiers bien connus. Et au fil des épisodes, nous discuterons de quatre projets ayant rencontré différents types de défis, soit des défis en exécution, en ingénierie, en architecture, ou bien des défis qui ont trait à la technologie. Nous aborderons aussi évidemment les solutions trouvées pour y faire face. Dans cet épisode, nous discuterons des défis ayant trait à la technologie au sein des bâtiments. Chauffage, climatisation, humidité, ventilation, éclairage, les sources possibles de perte d'énergie sont nombreuses dans un bâtiment et heureusement, certaines technologies qui investiguent secrètement nos quotidiens depuis déjà plusieurs années prennent d'assaut les bâtiments et les systèmes CVAC afin de participer à leur décarbonation et puis ainsi les rendre plus verts et parfois plus intelligents aussi. Nous allons accueillir aujourd'hui Ronald Gagnon, technicien et chargé de projet chez Pajot Morel, et de même que M. Isaël Desage, responsable technologique chez Brainbox. Nous allons discuter avec eux de la décarbonation des bâtiments et des défis quant à l'installation de ce genre de système. Nous discuterons aussi des défis quant à l'acceptation d'intégrer de nouvelles technologies au sein des bâtiments, et ce malgré leurs nombreux avantages économiques et environnementaux. À tout de suite. Monsieur Ronald Gagnon, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est avec plaisir.
Donc, vous êtes dans le domaine de l'ingénierie chez Pajot Morel. Il est plus facile, lors de la conception de nouveaux bâtiments, d'y intégrer des systèmes CVAC. CVAC, on parle de chauffage, climatisation, bon, j'en ai parlé durant l'introduction. Une façon éco-énergétique aussi de faire des bâtiments. Ceci étant dit, quels sont les enjeux posés par la décarbonation de l'environnement bâti?
On s'entend que les objectifs communs mondiaux sont de se diriger vers ce qu'on appelle le net zéro 2030. Donc, normalement, tous les bâtiments qu'on produit à partir de 2030 devraient déjà être zéro carbone sur le site. Mm-hmm. Le monde trouve que le 2030, c'est une date abstraite. On va ramener ça à un nouveau paradigme aujourd'hui. C'est dans 84 mois. Ça change la façon de voir la chose.
En effet.
Bon, donc dans le nouveau bâtiment, faire du net zéro en carbon zero, c'est relativement simple. C'est pas du rocket science, ça se fait très bien. La problématique, c'est qu'effectivement, l'essentiel de notre patrimoine bâti, porte son nom, il est bâti.
Ouais.
S'il est bâti, comment on vient intégrer ça? Comment on vient s'assurer que notre cycle carbone s'améliore et comment on va venir faire de la réduction de nos apports énergétiques? Il faut se rappeler que le patrimoine bâti considère déjà presque 40 % de l'énergie consommée au Québec.
Ah oui?
C'est majeur.
C'est beaucoup.
C'est majeur. De cette portion-là, il y a aussi une portion assez intéressante qui s'appelle le carbone intrinsèque. Donc, c'est des énergies qui ont servi pour faire les matériaux qu'on a utilisés.
OK.
Parce que le carbone, c'est le carbone qu'on consomme sur place. Donc, les combustibles fossiles, peu importe ce qu'on va utiliser pour l'opération du bâtiment. Mm-hmm. Mais tout ce qui a servi à construire ce bâtiment-là, le carbone qui a permis à faire le béton, le carbone qui a permis à faire l'acier. Quand on s'en vient dans une net zéro carbone, il faut tenir en compte ce qu'on va appeler les carbones intrinsèques.
Ah ouais.
Donc, on va aller chercher tout ce qui sert à construire et là, on va regarder ça dans un apport plus grand, donc ce qu'on va appeler une analyse de cycle de vie.
Okay.
L'analyse de cycle de vie nous permet de voir comment on va utiliser un matériau, le choisir, l'opérer, le récupérer en fin de vie et le ramener à une nouvelle vie. Le cycle doit être complet.
Ah ouais.
Il y a une quinzaine d'années, on parlait de ce qu'on appelle « from cradle to grave », donc du berceau à la tombe. C'est cute, mais il manquait un paradigme, il fallait le ramener à la vie.
Ah ouais.
Et donc, toute cette émergence-là vers la notion de carbone au lieu de juste efficacité énergétique, c'est de prendre en compte tous les impacts que ça va amener.
Oui. Quels sont les défis à relever puis les solutions aussi à préconiser, tant passives qu'électromécaniques dans ce domaine-là?
Tout le monde a déjà vu son bac de recyclage à la maison avec les fameux 3R.
Ouais.
Bon, c'est aussi bête que ça. Là, je vais ramener peut-être au cégep ceux qui ont eu la chance de prendre un cours de psycho. La pyramide de Maslow.
Oui.
La pyramide de Maslow, les besoins de base ne peuvent pas être oblitéré. Donc, il faut répondre aux besoins de base avant de passer à l'échelon supérieur.
Mm-hmm.
Okay? Même chose en efficacité énergétique et en décarbonation. La base, c'est la réduction. Donc, s'assurer qu'on a construit une bonne enveloppe ou si on fait un travail dans l'existant, rénover l'enveloppe au départ. Donc, la qualité des verres, la qualité de la fenestration, la qualité des murs, la réduction. Est-ce qu'on a besoin de cette grandeur-là? Est-ce qu'on a besoin de cette fonction-là? Réduire ça à son minimum. Mm-hmm. Après ça, le deuxième R, donc la deuxième phase dans la pyramide de Maslow, la récupération. Donc, j'ai réduit au maximum. Là, je vais l'exploiter de façon à consommer le moins possible. Donc, les intrants que je vais faire, je vais aller récupérer l'énergie dans l'eau chaude domestique, dans l'air vicié que je vais évacuer, dans mes égouts, à la rigueur, dans mon eau potable. Je vais faire tout mon effort de réduction. Une fois que j'ai tout fait ça, là, je peux atteindre le sommet de la pyramide de Maslow, s'actualiser, devenir une meilleure personne. Dans le cas de notre développement durable, je peux devenir à ce moment-là, je peux aller vers les énergies renouvelables et ce qui va être cute, qui va être fancy.
Donc, il n'y a pas de miracle, il faut y aller étape par étape.
Étape par étape, et il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de panacée universelle. C'est une succession de petites mesures et de réflexions qui va nous amener à un résultat extrêmement bon.
Oui, il faut donc, exact, il faut se mettre les mains dedans, il faut faire le travail.
Mais en fait, c'est ça, c'est qu'encore une fois, bon, vous allez tous à Montréal de temps en temps, on est à Montréal.
Ben oui.
OK. Qu'est-ce qui arrive le soir quand on regarde le centre-ville?
Il y a beaucoup de lumière dans
beaucoup les bâtiments. Beaucoup de lumière. Est-ce que beaucoup de ces bureaux-là sont occupés?
Surtout pas de ce temps-ci.
Surtout pas de ce temps-ci. Fait que ça, c'est toute l'énergie gaspillée. En hiver, tu dis, ah, pas si pire, c'est du chauffage. Dès que le printemps arrive, là, aller jusqu'à l'automne, là, donc à peu près 9 mois dans l'opération d'un bâtiment, sur 12, là, on est en mode refroidissement. Fait que chaque fois que j'allume 1 watt d'éclairage, c'est 2 watts d'énergie.
Wow.
1 watt pour l'allumer, 1 watt pour refroidir. Fait que c'est du double dipping. Fait que si on regarde le paysage de Montréal quand on arrive, puis on voit toutes ces lumières-là qui sont allumées, bon, mais si j'ai 100 000 watts d'allumé, ben j'ai 200 000 watts de consommation instantanée. Qui sert à qui? À personne.
Mm-hmm. L'enveloppe du bâtiment est-elle importante, elle aussi, pour la décarbonation des bâtiments, l'enveloppe en tant que telle? Puis pourquoi?
Elle est fondamentale. C'est la base. La réduction commence par la qualité de l'enveloppe. Je devrais pas dire ça, c'est pas bon pour nous en génie, mais je suis prêt à sacrifier des honoraires et des budgets en ingénierie pour que l'enveloppe soit meilleure. Meilleure sera l'enveloppe, moins on devra intervenir en électromécanique pour compenser. On va faire un peu d'histoire. Depuis 200 à 300 ans, depuis qu'on a découvert la puissance, donc avec l'événement de la vapeur et suite à ça l'électricité, tout ce qu'on faisait avec génie avant, on le fait maintenant avec puissance.
Mm-hmm.
On est devenu paresseux dans les dernières 100, 150, 200 ans parce que tout ce qu'on ne peut pas faire facilement, on le faisait en ajoutant de la puissance. On peut pas passer assez d'air, on va grossir les gaines, on va mettre des plus gros ventilateurs, on va augmenter la puissance. Rappelez-vous, Cléopâtre buvait son lait avec de la glace il y a 3000 ans. Pas beaucoup de frigo en Égypte.
En effet.
On avait de la climatisation par absorption au Moyen-Orient. Les Romains utilisaient les planches chauffantes. C'est pas une invention à nous, là.
Mm-hmm.
Okay. Donc, tout ce qu'on a arrêté de faire avec génie, on l'a fait avec paresse. L'énergie nous a amené la paresse.
Grâce à l'énergie, c'est ce que j'allais dire.
Grâce à l'énergie. Aujourd'hui, il faut essayer de repenser un petit peu plus, faire une petite rétroaction, puis aller voir qu'est-ce qu'on faisait bien avant.
C'est une bonne discussion. Et quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la décarbonation des bâtiments?
Bon, l'intelligence artificielle a sa place comme dans tous les autres domaines. Ce qu'il faut faire attention, puis j'ai une image qui me vient tout en tête, c'est je l'ai dans mon bureau d'ailleurs, qui dit « input, output, puis si tu te trompes, capote.
Okay? »
Donc, c'est un processus. Si les données qui sont insérées à la base sont biaisées, le résultat sera nécessairement biaisé.
Mm-hmm.
Ce qu'il faut faire attention, c'est que l'intelligence artificielle devient tellement pertinente aujourd'hui et tellement crédible que le commun des mortels ne peut plus faire la différence entre est-ce que c'est une réflexion que j'ai eue ou c'est un résultat d'un processus intelligent, d'un processus intelligent artificiel.
Ouais.
Faut savoir d'où viennent nos sources. Autant que ça peut être d'une utilité incroyable au niveau de la gestion, parce que l'humain étant ce qu'il est, on a tendance à oublier des choses, à pas porter attention, à être distrait. L'intelligence artificielle peut nous permettre de faire des suivis d'une acuité incroyable. Par contre, si on la laisse dériver, ça peut être une source de désinformation ou de misinformation particulièrement dangereuse.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut faire attention avec faut pas être contre l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Faut juste savoir que la notion, c'est artificielle.
Ouais. Et s'en servir à bon escient.
Et s'en servir à bon escient, c'est un outil. L'outil ne devrait pas nous guider, on devrait guider l'outil.
Voilà. Donc, dans l'avenir, ce genre de technologie-là, ça va s'imposer dans les bâtiments.
Ça s'impose déjà.
Déjà,
de plus en plus de ce qu'on appelle en anglais des Internet of Things,
mm-hmm,
et le Big Data, la majorité des équipements dans ça viennent de plus en plus intelligents en soi. Donc, on ne les relie plus électromécaniquement, on les laisse dialoguer. Donc, on a une multitude de réseaux dans les bâtiments maintenant qui font que les équipements parlent entre eux.
Ouais.
Ils parlent des fois sans nous.
Oui,
c'est ça. Il faut s'assurer que tout ça, il y a une certaine convergence puis qu'on garde les deux mains sur le volant.
Ouais. Donc, au niveau du bâtiment, l'intelligence artificielle va venir rendre service quand même à tout ce qu'on a pensé au préalable. Et ça peut améliorer le processus aussi.
Ça va améliorer et ça doit améliorer, sinon il n'y a pas de valeur ajoutée. Plus on va avoir de qualité de la supervision puis de l'opération, parce que souvent, les bâtiments, même si on construit des excellents bâtiments, souvent dans le temps, on perd de leur performance parce que le suivi n'est pas fait.
Mm-hmm.
Parce que personne n'a le temps, tout le monde est bousculé dans les horaires. Donc, les tâches les moins gratifiantes et les moins visibles sont souvent négligées.
Ouais.
L'intelligence artificielle, elle va faire ces tâches-là de façon répétitive et suivie. Fait que ça, c'est tous des éléments qui vont nous amener pour aller faire une meilleure opération, une meilleure connaissance de nos bâtiments. Puis l'opération aussi, la prédictibilité. Donc, mm-hmm. qu'est-ce qui s'en vient? Comment les équipements s'usent? Comment ils se dégradent?
Ah oui.
Je vais même penser à il va peut-être mettre à jour mon plan d'entretien, mon plan d'investissement.
C'est vrai.
Fait que quand je dis qu'on parle des petits gestes. Donc, l'intelligence artificielle, on a déjà commencé à superviser de l'occupation du bâtiment. J'ai personne. Je vais le fermer, la foutue lumière.
Ben voilà.
OK, pourquoi est-ce que j'en ai besoin? On est rendu dans les bureaux. Bon, ici, on a des interrupteurs. OK, on est devenu intelligent il y a une couple d'années. On a dit, on va mettre des détecteurs de mouvement.
Mm-hmm.
Enfin, fait, dès que la pièce allume, on reconnaît dans la pièce, la lumière s'allume.
Ouais.
Ce qu'on a besoin. Si on était, les fenêtres étaient ouvertes, puis on avait beaucoup de lumière naturelle qui rentrait dans la pièce, est-ce qu'on aurait besoin d'allumer la lumière? Non. Fait que là, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des détecteurs plus intelligents qui vont nous permettre de fermer la lumière quand on n'y est plus, mais qui vont faire que si on veut de la lumière, il va falloir faire un geste conscient et aller l'allumer.
Mm-hmm.
Fait que c'est un geste conscient qui va requérir, est-ce qu'une analyse dit, est-ce que j'en ai besoin?
Ouais.
On veut utiliser M. McSween.
Oui.
Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si j'en ai pas besoin, je me lèverai pas, je vais continuer à travailler parce que la lumière naturelle baigne, ce qui est meilleur pour moi, en ce qu'on appelle la biomimétique. Donc, l'humain veut toujours être dehors.
Ah oui.
Pas quand il fait moins 30, là. Mais ceci étant dit, on aime ça être dehors. Donc, on essaie toujours de tranquillement de faire mimiquer nos bâtiments vers ce qu'on appelle la biomimétique. L'imitation de l'extérieur. C'est en ramener le plus proche du milieu naturel. Donc, si je suis baigné de lumière naturelle, puis elle ne me nuit pas, pourquoi j'irais allumer des foutues lampes électriques? Fait que l'intelligence artificielle nous permet de faire ça. On va superviser le niveau de la lumière, on va regarder les stars. On peut activer les stars. Après ça, on va déterminer si on allume ou pas une lumière, mmh. ou des lumières, où on les tamise, qu'est-ce qu'on fait avec. L'intelligence artificielle, dans le quotidien, va nous permettre de faire tout ça. On regarde même dans la gestion des ascenseurs aujourd'hui. On utilise des séquences d'intelligence artificielle pour optimiser le mouvement de l'ascenseur.
Ah,
on prédit que le matin, j'ai besoin d'en garder plus autour de ce bout-là. Le midi, je vais commencer à les garder un peu plus haut, ces étages. Je vais en garder juste une en bas, je vais en amener 3 ou 4 en haut, parce que mes appels vont venir pour du monde qui veut aller dîner. Non pas qu'il veut leur venir au bureau.
Ben oui.
Ben, je commence à positionner mes cabines.
C'est un exemple concret de l'intelligence artificielle. Exact.
On optimise, on regarde dans des entrepôts. Les entrepôts, avant ça, tout le monde mettait, la palette A va à l'emplacement A, la B va au B. Mais aujourd'hui, on va appeler ce qu'on appelle la théorie du chaos. OK? Ou en anglais, un fuzzy logic.
OK.
C'est-à-dire que il y a tout un algorithme qui s'installe, qui va regarder, le lundi, cette palette-là sort 2 fois plus souvent. Fait que je vais la laisser plus proche quand je vais la ressortir, je vais y remettre un nouvel emplacement.
Ouais.
Lui, ça va aller au vendredi, habituellement, quand le monde commande ça, je vais la replacer plus loin, puis parce que j'y reviendrai pas souvent. On s'amuse à permuter des choses comme ça, avec des algorithmes, parce qu'on maintenant, on a de l'information.
Mm-hmm.
L'humain n'est pas capable de traiter toute cette information-là, de là nos outils d'intelligence artificielle. Mais, encore une fois, c'est l'outil. L'outil n'est pas le maître.
Voilà.
Restons maîtres de nos outils.
Oui, bonne idée, ça. Monsieur Ronald Gagnon, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a et à très bientôt.
Au plaisir.
Merci. En deuxième portion de Balado, nous accueillons Isaël Desage, responsable technologique chez Brainbox. Merci beaucoup, Isaël Desage. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup, François. C'est un plaisir d'être ici.
Écoute, je pense avoir une belle discussion. Pour débuter, première question, pourquoi intégrer l'intelligence artificielle dans les bâtiments?
Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que chaque bâtiment est vraiment unique. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 2 bâtiments identiques, mais si vous les mettez géographiquement à 2 endroits différents, leur orientation face au soleil est différente, le comportement des utilisateurs à l'intérieur aussi. Et l'avantage de l'intelligence artificielle moderne, c'est qu'on peut apprendre de toutes ces données-là. Et en apprenant des données, on permet après ça à l'intelligence artificielle de se spécialiser et d'offrir de l'optimisation cas par cas pour chaque client.
Ça, c'est intéressant. De quel type de bâtiment on peut retrouver ce que vous installez finalement? Dans le résidentiel, le commercial, dans quel type de bâtiment?
Oui, alors BrainBox AI fait principalement dans tout ce qui est commercial. Une des raisons que je viens de vous mentionner, donc, c'est l'accès centralisé aux données.
Ouais.
Et dernièrement, on a fait une grande poussée dans tout ce qui est commerce au détail. Pourquoi commerce au détail? Parce que ce sont souvent des bâtiments où il n'y a pas d'équipe ou d'employés spécialisés dans les CVAC pour s'occuper à temps plein.
Ouais.
Et ça permet donc aux propriétaires de ce genre de commerce d'avoir beaucoup d'impact sur notre installation et d'avoir des bons revenus en termes d'économie d'énergie.
Ah ben oui.
Et pour avoir d'autres objectifs, surtout par rapport à la transition énergétique.
Quels sont les défis, Isaël, que vous rencontrez quant à l'installation de votre système? Est-ce que c'est... Bon, vous me parlez d'une petite boîte, mais bon, la petite boîte, elle fait pas tout, puis il y a une installation autour de ça. Quels sont les défis?
C'est une excellente question, François, puis je pense que la plupart de vos auditeurs se la posent aussi. Vous savez, on est à l'interstice de beaucoup de domaines avec cette technologie-là. Je pense à l'intelligence artificielle de pointe, je pense au génie mécanique, je pense aux spécialisations techniques de différents systèmes de CVAC. On parle aussi de logiciels, de cloud. Donc, un des plus gros défis qu'on a, c'est l'éducation, parce que beaucoup de gens sont très partants, mais ils ont beaucoup de questions, ils savent pas exactement comment ça se passe. Donc, on a au travers des années, on a dû développer tout ce système d'éducation qu'on parle de l'amont, donc avant l'installation, d'expliquer la valeur, comment on procède aux parties impliquées dans l'installation du produit, jusque même à l'accompagnement. Une fois que le produit est installé, tout fonctionne bien, encore une fois, de montrer la valeur au client, de la quantifier et après ça, de maintenir la relation de façon constante parce que c'est un produit continu, donc ça continue d'optimiser en temps réel et donc la relation ne se termine pas une fois que l'installation a été faite.
Donc, il y a toujours un suivi, évidemment.
Absolument. Donc, ça, c'était un des plus gros défis qu'on a. Je vous dirais, l'autre qu'on a rencontré historiquement, c'est qu'il y a beaucoup de diversité d'équipements et de protocoles CVC.
Ouais.
Donc, quand on a commencé en 2019, et ça fait déjà quelques années, vous arrivez et puis vous avez un nouveau type d'équipement, un nouveau protocole. Donc, il faut adapter la technologie. Et donc, c'est quelque chose qu'au fil des années, on a été capable d'étendre et d'augmenter notre compatibilité jusqu'au niveau aujourd'hui où on est compatible avec la majorité des équipements qu'on trouve sur le marché.
D'accord. L'emploi de l'intelligence artificielle dans les bâtiments, c'est beaucoup plus que de simplement changer la température selon les conditions météorologiques, n'est-ce pas?
Oui. Donc, l'idée, c'est que dès qu'il y a des capteurs, on peut les ingérer.
Mm-hmm.
Donc, que ce soit des données, vous avez mentionné la qualité de l'air, l'humidité, le CO2. On va aussi aller chercher des sources de données comme la température extérieure, l'humidité extérieure. Des fois, on a même la présence ou non de certains occupants. Donc, ce sont toutes des données qu'on va collecter à très haute fréquence. Des fois, on parle même à la minute.
Ah oui.
Et que l'intelligence artificielle va utiliser pour ses apprentissages et qu'elle va considérer dans son optimisation. Donc, c'est vraiment ça l'avantage de cette technologie-là et de l'intelligence artificielle.
Mais il y a un grand côté programmation à ça. Donc, l'AI, tout le truc informatique, en quoi ça consiste? Comment c'est possible? Dans la programmation de votre bête intelligente.
Oui, ben alors, vous avez raison. Puis, donc, c'est important de discerner l'aspect intelligence artificielle.
Ouais.
Donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une technologie très moderne, l'idée d'apprendre à partir de données. Et vous avez raison, il y a tout l'aspect programmation, il y a l'aspect cloud, parce qu'on veut communiquer à distance souvent avec les équipements de nos clients. Donc, dans les défis de programmation principaux qu'on rencontre, évidemment, c'est la sécurité.
Mm-hmm.
On sait que les ingénieurs, quand ils signent sur un projet, ils doivent testifier de la sécurité et des occupants et de l'équipement, des ressources qu'on utilise. Donc, le premier défi autour de la sécurité, c'est toujours ça, que peu importe qu'on utilise de l'intelligence artificielle, on veut être certain que cet aspect-là est couvert.
Ouais.
Ensuite, il y a le fait que chaque bâtiment est différent. Donc, on est obligé d'apprendre pour chaque bâtiment de façon indépendante, parce que chaque bâtiment est différent. Et à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne peut pas avoir d'être humain dans le processus si on veut pouvoir faire une mise à l'échelle. Donc, dans le développement de cette technologie-là, c'est essentiel. Ça a été un des défis qu'on a rencontrés et qu'on a dû résoudre dès le départ.
Okay. Croyez-vous que dans l'avenir, ce genre de technologie-là va s'imposer dans les bâtiments et dans tout ce qui est bâti, finalement? Est-ce que ça va devenir... Un truc, c'est normal, on va prendre de l'intelligence artificielle, puis on avance avec ça. Est-ce que ça va devenir courant?
Je suis un optimiste.
Vous allez me dire oui, c'est sûr.
Exactement. je suis un optimiste né, François, mais je pense qu'on est déjà dans l'avenir. Je pense que la transition énergétique, c'est maintenant. Mm-hmm. Et je pense qu'on n'aura pas le choix d'avoir des technologies comme ça qui nous permettent d'aller chercher une amélioration de ce qui existe déjà. On ne peut pas toujours construire du neuf. On n'a pas le temps de construire du neuf.
Effectivement.
Et c'est pour ça que je vous dis, on est dans l'avenir. On est déjà dans près de 20 pays différents, 400 bâtiments.
Wow.
Donc, nous serons là et nous faisons ce qu'on peut voir dans la transition énergétique.
Futur. C'est maintenant, c'est bon ça. Merci beaucoup. Ça termine cet épisode du balado Station Constructo. Monsieur Isaël Desage, responsable technologique chez Brainbox AI, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.
Merci beaucoup, François, et merci à tous vos auditeurs.
C'est ce qui termine le dernier épisode de cette série sur les grands chantiers, un défi à la fois. Nous souhaitons remercier Ronald Gagnon, Isaël Desage, ainsi que Loutech qui commandite cette série. Suivez Station Constructo sur l'une de vos plateformes préférées et sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochaine série d'épisodes. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com, section balado. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.